Dans la méditation ce matin, je vous invite à ouvrir l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 3, nous lirons trois versets. Je lirai dans la nouvelle pensée courante. Hébreux 3, 13, 15. Un texte que nous avons déjà lu début du mois. Encouragez-vous plutôt les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. En effet, nous sommes les compagnons du Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Ainsi, il est dit, si vous entendez la voix de Dieu, aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre comme lorsque vous étiez révoltés contre lui. Et un deuxième passage, Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Continuons fermement à proclamer notre espérance, car Dieu reste fidèle à cette promesse. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir avec bonté. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Père éternel, te demandons de bénir ta parole, de nous bénir, de bénir cette Église, et que nous puissions entendre ton message surtout. D'abord que je sois qu'un simple parleur pour moi-même déjà, et pour mes frères, mais qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. L'épître aux Hébreux, comme son nom l'indique, adressé aux Hébreux, et n'est pas signé, tout comme la première épître de Jean, contrairement aux autres écrits du Nouveau Testament. On sait qui c'est qui a écrit, on a des doutes, mais bon, ne rentrons pas dans les détails. Le peuple hébreu, qui à cette époque a vécu avec la Torah et les pratiques sacerdotales de l'Ancien Testament, instauré par Dieu, et qui est quand même la nation de Jésus, c'est aussi à lui que ça s'adresse. L'épître aux Hébreux commence par décrire les révélations. Il faut lire toute l'épître, elle vaut vraiment le coup. Épître aux Hébreux 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à bien des reprises et bien des manières par les prophètes, mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Déjà, l'auteur déclare que les Hébreux sont dans les derniers temps. Ce qui pourrait nous indiquer que Jésus est la dernière révélation de Dieu. Rien ne viendra après pour parler de sauver. Aucune autre religion, aucune autre philosophie, aucun autre prophète ne viendra après Jésus, le Fils de Dieu. Le début de l'Épître nous affirme que le caractère distinct du Fils, il est Fils de Dieu. Il existe dans l'histoire, il existait avant l'histoire, il existera après l'histoire, il est au-dessus de l'histoire. Il est le seul qui apporte la purification de l'homme dans l'histoire. Il est d'essence divine, il resplendit la gloire de la divinité. Tout montre que Christ est au-dessus de tout. C'est la révélation suprême de Dieu et la dernière. L'auteur de l'Épître décrit Jésus au-dessus de tout, au-dessus des anges, au-dessus de Moïse. Il est le souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'Ancienne Alliance, et c'est par lui que nous avons accès directement au lieu très saint, lieu où réside Dieu lui-même, et par le voile déchiré, qui s'est déchiré le jour où Jésus est mort, nous avons une entrée directe au lieu très saint. Et le premier verset que nous avons lu dans cet épître nous montre que nous encourage à nous soutenir les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Nous pouvons encore dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que demain, demain est un autre jour. Mais aujourd'hui, comme je le répète souvent, est un jour de grâce. On est toujours là. Et par deux fois, si vous avez remarqué dans ce petit passage que nous avons lu, il est écrit « Refusez de comprendre ». Dans d'autres versions, c'est... Vous ne vous prenez pas pour autre chose. mais refusez de comprendre. Encouragez-vous plutôt les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre, en se laissant tromper par le péché. Et verset 15, ainsi le dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, dans la version seconde, n'endurcissez pas vos cœurs, la Nouvelle Française Courante dit, ne refusez pas de comprendre. Pourquoi devons-nous comprendre? Et quoi comprendre? Que s'est-il passé? Pourtant, nous met en garde contre le péché qui nous tenait esclaves avant. Nous ne pouvons pas rester dans le même état que nous étions avant. Le peuple hébreu à qui cette épître est adressée doit accepter que Jésus est le Fils de Dieu et le Messie. De même que nous, Église de Jésus-Christ, nous devons accepter d'être différents de ce que nous étions avant. Ça me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'avant et l'après? La conversion, simplement. On a rencontré Jésus-Christ. Avant, après. En effet, nous sommes les compagnons du Christ, si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Il y a eu un commencement dans notre vie chrétienne. Un changement. En d'autres mots, il y a une question. Sommes-nous les mêmes qu'au début de notre vie chrétienne? Je ne regarde personne, je ne veux pas répondre. Sommes-nous les mêmes qu'au début de notre vie chrétienne? Souvenez-vous de l'affiche du film du Fils de l'Homme. Un jour que les disciples se trouvaient tous ensemble en Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'Homme va être livré au pouvoir des humains. Ils le mettront à mort, mais le troisième jour, il le ressuscitera. Les disciples furent profondément attristés. Ont-ils vraiment tout compris? Étaient-ils les mêmes au début de leur vie avec Jésus, malgré qu'ils ont vécu 3 années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en direct avec Jésus? Ils sont profondément attristés. Et le texte hébreu, profondément attristé, le texte original, dit fortement, il n'y a pas de mots, ils sont vraiment dans le quatrième de souris. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Comme je disais, il me manque un bout de l'affiche. La résurrection. Il dit, ah, Christ va mourir. Oh, on n'est plus là. On va se retrouver seul. Mais si la mort de Jésus a déchiré le voile, la résurrection, le passage dans le lieu très saint, c'est arriver dans la présence de Dieu. Mais pour cela, il faut faire un pas. Si on reste dans le lieu saint, on ne passera jamais le voile. Il faut avancer, il faut grandir, il faut mûrir en Christ. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître constate. Vous verrez plus ou moins au milieu de l'Épître, chapitre 5, il s'arrête. Il s'arrête dans ses explications sur le Christ. Et voilà ce qu'il adresse directement à ses auditeurs. Pas moi qui parle, je vais le laisser parler. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais il est difficile de vous les expliquer, car vous êtes devenus paresseux pour comprendre, lents à comprendre dans d'autres versions. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres, et pourtant vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant, il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont le sens habitué à distinguer le bien et le mal. En essence, il nous a dit, depuis que vous êtes convertis et que vous êtes dans l'Église, vous devriez être au top de la connaissance. Mais vous n'êtes que des enfants corrompus. Quel prédicateur oserait dire cela à sa communauté? Qui se permettrait de juger de telle manière, si ce n'est pour stimuler la foi, l'amour, la communion fraternelle, la prière à vie de l'Église locale? Au point où vous êtes arrivé, vous devez être dans le lieu très saint. Je devais être dans le lieu très saint. Nous devions être dans le lieu très saint. Et le deuxième texte que nous avons lu dans Hébreux 10, approchons-nous donc de Dieu, entrons dans le Dieu très saint, avec un cœur sincère, une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure, continuant fermement à proclamer notre espérance, car Dieu reste fidèle à cette promesse. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et agir en toute bonté. Ici, l'auteur se met dans le même bain. Approchons-nous. Et pas n'importe comment. Verset 22, on sera pour tous. C'est pour tous. Avec un cœur sincère. Avec une entière confiance. Avec le cœur sanctifié. Et puis au verset 23, il parle individuellement. Proclamons notre espérance en Dieu. Parce que ses promesses sont certaines. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. J'ai déjà dit Dieu, il n'a qu'une parole. Et il la tient. Et au verset 24, en communauté, veillez les uns sur les autres. Bon, pas pour juger, mais pour mieux aimer, pour mieux agir avec bonté. Notre Dieu a tout donné, même son propre Fils. Et j'ai mis la question, est-ce que j'ai bien tout compris? Avons-nous tous bien compris? Et puis il reste le fameux dernier verset que j'ai lu. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Le fameux verset, souvent tiré de son contexte et trop souvent utilisé vers les autres. Mais remarquons que l'auteur se met aussi dans les mêmes conditions. N'abandonnons pas nos assemblées. Et souvent le début du verset sur l'abandon de l'assemblée est utilisé pour ceux qui quittent l'Église, pour quelle cause que ce soit. Ou pour les chrétiens qui butinent d'église en église et qui ne se fixent pas. Ou encore celui qui reste chez lui et qui écoute les cultes grâce aux médias ou pas. Il est pénible, hélas, de constater que c'est quand même une triste vérité. À moins que je sois tout seul à penser ça. Mais je pense pas. Il m'est venu l'idée de comparer l'église en général à la famille. Enfin, l'idée n'est pas de moi, elle est biblique. La famille. Mais tout ce qui suit, les réflexions découlent, ne sont que de moi, en regardant les familles actuelles. Et je me suis dit, actuellement, on parle de famille monoparentale. Bien, des chrétiens font leur église chez eux, ou pourquoi, ou parce qu'ils croient être tout seuls à détenir la vérité, et ils veulent pas être comme les autres, tout seuls. Et puis, les familles homoparentales, ceux qui ces chrétiens qui se rassemblent avec ceux qui sont les mêmes qu'eux, exactement les mêmes, ils n'aiment pas, ils n'acceptent pas la différence. Et les familles recomposées, on constate des nombreuses communautés remplies de chrétiens qui ont divorcé de leur église de naissance. Je ne vise personne, évidemment. Familles sans mariage, on parle de compagnons, de conjoints, les chrétiens non membres, sans engagement aucun. Ils sont chrétiens, ils sont plus. Et puis, il y a les célibataires. Je les appellerai les électrons libres, les chrétiens non pratiquants, sympathisants. Et je me suis arrêté de penser parce que j'avais l'impression de critiquer ce que le Seigneur a de plus précieux. Son épouse. Son église, où je fais partie. Pardon, Seigneur, de regarder davantage au terrestre qu'au céleste. Et je me suis arrêté parce que je classais les autres dans des catégories, dans les cartes de jugement. Et j'étais moi-même en porte-à-faux. Je voulais le partager avec vous quand même. En fait, dans ce verset, n'abandonnons pas nos assemblées, il y a toujours l'idée de la fin, du dernier jour, le jour du Seigneur à la fin du texte. Je relis, n'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire, au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Il y a le jour du Seigneur. Et ici, le mot traduit par assemblée ou rassemblement, étonnamment, est rare. Rare dans le Nouveau Testament. Il n'y est en effet que deux fois. Deux fois dans les textes grecs. D'une part, pour les autres, le Nouveau Testament parle de l'Église, c'est le mot ecclésia qui revient. qui est employé, qui donne évidemment le mot Église qui a été mis plusieurs fois par Jésus lui-même. Il instaure son Église. Je dirais donc que dans notre texte, c'est un autre mot. Un mot qui est utilisé une deuxième fois dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, évidemment qui veut dire bien rassemblement, qui veut bien dire assemblée, mais pas spécialement Église. 2 Thessaloniciens 2, 1-2, en ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement, voilà le fameux mot, auprès de lui, nous vous demandons une chose, frères et sœurs, ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit ni effrayer. Si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé, ne le croyez pas. Même si l'on se réclame d'une parole de l'Esprit, d'une déclaration, ou bien d'une lettre qui serait attribuée. Nous constatons que dans les deux cas, le contexte nous indique la venue du Seigneur ou le jour du Seigneur. Alors, est-ce que nous sommes toujours dans cette perspective de sa deuxième venue? Ou il manque un bout de l'affiche? Nous avons peut-être abandonné l'idée du rassemblement de l'épouse de Christ lors du jour du Fils de l'homme. Ce rassemblement, c'est celui-là. Le rassemblement où on se retrouvera tous ensemble là-haut. Et quand il dit « n'abandonnez pas cette pensée que tout ce qui est ici sera réuni aussi là-haut. » Nous avons trop souvent tendance à raisonner avec, hélas, notre cerveau qu'avec notre esprit, qui n'est autre quand même que celui de Dieu, si on lui laisse toute la place. Nous devons comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous n'abandonnons pas notre assemblée, notre église, oui, certainement, oui, dans le sens où essayons au maximum d'être dans la réunion, essayons d'être avec les autres, mais nous n'oublions pas ce rassemblement qui sera là-haut, avec Dieu et Jésus. Nous avons, nous, à nous brancher sur son esprit et sa parole pour voir comment il voit, pour aimer comme il aime. Alors que le Seigneur nous guide et que nous puissions nous exhorter les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire encore aujourd'hui. Avec la perspective, évidemment, du royaume et de la vie éternelle. Demain. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le Tout-Puissant, tu es au-delà de ce que nous espérons, de ce que nous pensons. Tes pensées ne sont pas nos pensées, mais nous voulons nous brancher sur toi, Seigneur, pour vraiment faire ta volonté. Mais en toute chose, que ce soit uniquement ta gloire qui règne. Dans le nom de Jésus, amen.